précède la Torah Shebichtav. La Torah Shebichtav étant la mise par écrit de ce qu'il fallait mettre par écrit la Torah Shebalpé. Et vous avez dû remarquer que cette mise par écrit est intentionnellement sous forme hermétique, occultée. En fait, personne ne comprend si on n'explique pas. Je pense que c'est clair. Vous avez dû remarquer ça, que la Bible est un livre étrange. Alors si vous rendrez compte dans vos études à quel point le Talmud qui la commande est un livre encore plus étrange. C'est clair. Alors je reviens à ce que je disais à propos des Sadducéens. Les Sadducéens prennent acte qu'il y a le livre. Mais il se relie au livre avec énormément de respect total. J'essaie de diagnostiquer ça dans la religiosité de type sadducéen contemporaine, avec énormément de respect et de scrupules. Et en général, on va compenser le manque de foi par une pratique d'autant plus rigoriste. Et vous voyez où mène cette analyse, d'ailleurs. Mais il se relie au livre avec le postulat que c'est un livre, que ce n'était pas du tout un phénomène de parole. Est-ce que c'est clair? Seulement, pieusement, on va faire comme si, pour ne pas porter atteinte à la dignité des ancêtres primitifs qui croyaient que c'était une parole révélée, on va faire comme si. Il y avait une espèce de respect orthologique du langage. L'orthologie, c'est l'orthodoxie de la parole. On va se répéter. Comme a dit le livre de la Révélation, les livres sacrés, les livres saints, mais on ne croit pas que c'est une révélation. C'est des livres importants, la plus grande sagesse humaine, mais pas plus. Vous avez compris bien ce que je veux dire. Et alors, finalement, la conscience sadducéenne, pour établir sa lecture du texte, ne dispose que de trois éléments. Le livre, les dictionnaires et l'intelligence du lecteur. Il n'y a plus de tradition. Est-ce que c'est bien fait? Et c'est pourquoi la religiosité de type sadducéenne, reliée à la Bible, le livre, la Bible, mène au légalisme. Et à un légalisme d'autant plus rigoriste qu'il cache un manque de foi radical de ce qui est l'essentiel de la foi des Hébreux qu'il y a eu révélation. Ça va jusque-là? Bon. Alors il n'y a que dans les lignées où la mémoire de cette révélation est passée, ce qu'on appelle la tradition, qu'on dispose des critères d'élaboration de la loi morale au-delà et plus profondément de sa propre légalité. Enfin, je pense que c'est suffisamment clair. Bon, alors là. Et je vais reprendre le problème d'un autre biais, du point de vue de la méthode de l'étude. Et je vais essayer de vous décrire la méthode de l'étude dans les milieux sadducéens. Eh bien, on a un livre, et on a des raisons culturelles de croire que c'est important de s'en occuper. D'ailleurs, on peut faire des thèses de doctorat avec, je ne sais pas si vous rendez compte, des synthèses. Et alors, on étudie le livre pour savoir ce qu'il veut dire, et on croit dans ce qu'on a trouvé. Oui, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est contingent. Alors, dans ces milieux-là, on a l'habitude de dire à ce qu'on croit, c'est contingent. Ça veut dire qu'on peut croire comme ça ou autrement, parce qu'on sait très bien, on est dans le coup. Okay. Ce qu'il faut, c'est faire à la lettre ce qu'il y a d'écrit. C'est ça la tendance à l'islam. C'est clair? Tu crois, ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que chacun croit à sa manière, puisqu'il croit que ce qu'il croit. Enfin, il croit qu'il croit. Et vous avez compris que... Et voilà la formule de l'étude. Et en général, dans ces milieux-là, vous entendez dire Agada, Agada. Alakha, c'était. Alors que la vérité, la tradition pharisienne, c'est l'inverse. Bon, je dirais très rapidement. On a étudié ça une fois dans l'étude du Perkei Avot en hébreu, je ne sais pas si c'est la même place, mais enfin quelques autres. Alors que pour le pharisien, c'est très différent. Il y a une mémoire qui a des raisons de savoir que ce livre est la mise par écrit d'une parole de vérité. Alors on croit d'abord que c'est la vérité, on a des raisons pour ça. La Torah Shebaalpé de cette Torah écrite précède la Torah écrite. Et puis on étudie le livre pour savoir en quoi on croit, et pas l'inverse. C'est pas pour... Vous avez compris la différence? Je reprends la formule. Dans la formule sadducéenne, on essaye de comprendre, et on croit dans ce qu'on comprend. Alors dans la tradition pharisienne, on étudie pour comprendre en quoi on croit, mais on croit d'abord que c'est une prophétie. Est-ce que... Alors le résultat de l'étude est radicalement différent, même si apparemment on parle avec les mêmes mots, ça n'a rien à voir. Et ça vous aidera, j'ai poussé les choses un peu à la limite, mais ça vous aidera à percevoir pourquoi il y a une telle différence d'atmosphère de l'étude de la Bible dans ce que je vous ai appelé le monde sadducéen et le monde pharisien. Bon, alors, il est bien évident que, grosso modo, je vais un peu penser que dans le monde de la civilisation chrétienne, eh bien, il s'agit a priori de la méthode sadducéenne. Quoi qu'il y a à ce sujet un conflit très sérieux entre les catholiques et les protestants, les catholiques étant beaucoup plus, légalistes que les protestants qui parlent d'une espèce d'intuition subjectiviste par le Saint-Esprit, de lecture de la Bible qui est donnée à chaque membre de l'Église protestante, alors que pour les catholiques, il y a un magistère. Vous comprenez, il y a donc chez eux ce conflit-là. Mais c'est à l'intérieur de... Ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que pourquoi? Ils étudient des Bibles traduites. C'est-à-dire, et la Bible traduite, c'est pas la Bible. C'est la Bible, c'est pas le Tanakh. Vous comprenez le... D'autant plus que le mot grec dont on s'est servi pour dire Bible, c'est le mot de Biblios, qui veut dire étymologiquement un livre de la sagesse humaine. Un homme écrit un livre. Alors c'est le livre qui prime le sens. Et alors qu'en hébreu, ça s'appelle un sefer. Et la notion de sefer s'oppose à Biblios. Et la notion de sefer, ça veut dire une sagesse inspirée. Et je n'ai pas cherché exprès l'analogie des mots. Sefer et inspiration. Mais c'est la différence. Dans l'Antiquité, dans les grandes cités païennes, il y avait toujours deux sortes de temples. Des temples qu'on appelait séphoris, et des temples qu'on appelait Biblios. Vous savez ça, les temples qu'on appelait Biblios étaient voués à la sagesse humaine qui vient d'en bas vers en haut. Et le mot livre se dit Biblos. Et alors, ça c'est les temples Biblios. Vous les avez en Grèce, vous les avez en Égypte, vous les avez en Asie Mineure, soit Séphoris, soit Biblios. Alors que les temples qu'on appelait Séphoris, c'était les temples de la Sphira. Enfin, l'autre mot, de la sagesse inspirée, qui va de haut en bas. Une lecture araméenne du mot de Babylone, qui est Bab Elyon. Bab Elyon, la porte supérieure. C'est ça la Bible, dans le sens grec du terme. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'en français, pour parler du Tanakh, on dit la Bible, on parle sadducéen, grec, romain, catholique. Non, mais... Alors, pour mieux faire, on dit la Sainte Bible. On l'a assassinée complètement. Bien, alors je reviens au problème. La tête des aïeux. Alors, ça, j'ai fermé la parenthèse sur les légalismes moralistes. Mais ça, je vais expliquer quand même. On a étudié une fois que, à propos de la nomination des juges, et on nomme un juge quand il arrive à la dignité qui s'appelle être Zaken. Et Zaken, ça veut dire vieillard. Bien, mais ce n'est pas forcément une question d'âge. Je crois que nous avons étudié déjà cette notion une fois. Pour tout le monde. Et la vertu du Zaken, c'est la midat arahamim. C'est la vertu de miséricorde. Alors que la vertu de l'adolescent, c'est l'entièreté du comportement de rigueur. Vous savez cela, l'adolescent est absolutiste, alors que le vieillard est clément. Je me rappelle à ce sujet toujours, mais j'ai encore oublié, d'un vers de Victor Hugo dans Beaux Endormis. Je vais vous dire grosso modo, s'il y a un littéraire parmi vous ou une, vous me direz, c'est un très beau vers, qu'il y a du feu dans le regard des jeunes gens et de la lumière dans celui des vieillards. Moi, je vous aime. Vous comprenez ce que je dis. Alors la règle absolue pour désigner un dayan, un juge, c'est de choisir un zaken, c'est-à-dire quelqu'un qui soit capable de l'amidat al-hadim. À lui, on peut faire confiance quand il juge. Si c'est quelqu'un de l'amidat al-hadim, on ne peut pas lui faire confiance. Vous comprenez? Parce que l'amidat al-hadim va exiger la peine maximum a priori. C'est pas un jugement, c'est une mécanique à condamnation. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, imaginez tout l'appareil de la justice comme un ordinateur où on pousse un bouton et il sort une réponse. On a besoin du juge. Et c'est clair ce que je dis là. Donc ça va bien dans ce sens-là. Bon, c'est une référence extrêmement, extrêmement importante et dans mon expérience personnelle de la vie israélienne contemporaine, donc surtout de la vie parlementaire, je suis extrêmement impressionné parfois de cet envahissement de la mentalité légaliste romaine dans le juridisme parlementariste israélien contemporain qui risque de mener à des catastrophes. Et on est surtout frappé par cela, la substitution de la vertu de la légalité à la vertu du coup, à la moralité du coup. Et les consciences morales du peuple sont paralysées à cause de ce malentendu intentionnel. Et elles sont, je ne sais pas comment on dit ça en français, plus qu'influencées, impressionnées par cela. On croit entendre parler des prophètes de la moralité alors que c'est les contre-prophètes de la contre-moralité. Est-ce que c'est clair? Et alors on n'ose pas élever la voix. Comment porter atteinte à la lettre de la lettre de la lettre, Dieu préserve? Et vous voyez ce que les Romains ont réussi à faire. Est-ce que c'est clair? Bon, vous voyez que nous sommes dans une problématique qui récapitule 2000 ans de ce problème. Et qui est très, très difficile. On n'est pas prêt d'en sortir. Enfin, c'est la problématique qui se pose à nous. D'autant plus que vous remarquez une chose, c'est les tenants du légalisme ne sont pas dénués de conscience morale, mais ils ont une conscience morale sélective. Est-ce que vous comprenez que ça veut dire ça, la conscience morale sélective? On vole au secours des victimes, mais pas n'importe lesquelles. Celles du camp politique dont on fait partie. Moi, je suis vous casé. Vous avez compris ça? Et c'est très significatif. Alors, on revient à la tête des hommes. Donc, je vous parlais du profil de la civilisation des hommes. Et comme vous le savez, il y a une relation au niveau de chaque grand exil, à propos du développement de chaque grand empire, entre l'histoire d'Israël et l'histoire de la civilisation contemporaine de chaque temps. Et les valeurs qui sont élaborées dans chaque civilisation sont finalement recueillies par l'identité d'Israël dans son passage de l'exil. Vous vous rappelez de ce thème que nous avons étudié, je ne sais plus, c'est la dernière fois ou l'avant-dernière, avec l'histoire de Joseph en Égypte, Yesh Shever Ben Israël. Ça se passe en Égypte, alors on va en Égypte, non pas pour s'égyptianiser, mais pour délivrer les valeurs éparpillées dans l'Égypte et les sanctifier, les transfigurer, les mettre à l'abri à l'échelle de l'universel messianique futur. C'est clair, cette formule trop concise peut-être, mais je pense que c'est clair. Et ce qu'il faut mettre en évidence par rapport à la relation à la civilisation romaine, la civilisation du droit, c'est précisément le fait qu'elle a élaboré là, ce que nous appelons aujourd'hui la logique. Et la logique, c'est la tête. C'est-à-dire que la logique, c'est cachère. Mais toute la phénoménologie qui habille cette logique, ça c'est Hushim, ça c'est le sensible, la sensibilité, cela est impure. La réponse à ça. Vous avez compris ce qu'a voulu dire le Shlach dans cet enseignement. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on va ramener de Rome? La capacité logique, celle-là, elle est cachée. Maintenant, la phénoménologie qui abîme cette logique, je répète la même formule que tout à l'heure, parce qu'elle me plaît, mais enfin, je crois qu'elle est suffisamment claire, celle-là, elle est impure. Et quand vous allez lire Tacite, bon, je ne vais pas prendre Tacite, Cicéron, je vais prendre Cicéron, la musculature du raisonnement juridique. Bon, ben cela, on va l'adopter et on va aider les talibistes avec ses propres logiques, ce qui s'occupe de talibistes. Mais les valeurs phénoménologiques que cela véhicule, ça c'est impur absolument. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus clair. Et j'ai été extrêmement frappé de cela dans l'étude de Maïmonide. C'est-à-dire, ce que Maïmonide retient de la philosophie grecque, c'est la logique. Et tout ce que l'on parle, ce dont les Grecs parlent avec leur logique, ils le rejettent. Mais la logique grecque, ils l'adoptent et ils l'intègrent dans le patrimoine d'Israël. au niveau de Maïmonide, il s'agissait vraiment de la logique grecque. Mais je vous citerai un ouvrage qui parle de la manière dont Ésaü trompait Isaac. Vous savez qu'il y a une complaisance d'Isaac vis-à-vis d'Ésaü, qui est un problème pour lui-même, justement. Vous avez dû remarquer ça dans la lecture des textes. Et puis, le Midrash se base sur l'expression que Isaac aimait Ésaü, qui Tsaïd Befil. Tsaïd Befil, ça veut dire qu'il avait le gibier dans la bouche. Tsaïd, le gibier, Befil dans sa bouche. Le pshat, c'est que Isaac avait le goût du gibier dans la bouche. Or, Ésaü savait lui préparer le gibier, vous vous rappelez de la scène? Et donc, il aimait Ésaü. C'est vrai qu'il faudrait que nous revenions en arrière sur les analyses de cette époque, enfin de l'époque des parachiotes de ce texte, c'est que Isaac a le pressentiment des deux tâches que l'homme doit résoudre pour résoudre le problème posé à l'identité humaine, la vocation matérielle et la vocation spirituelle, la vocation de ce monde-ci, la vocation du monde à venir. Et finalement, il arrive, lui, Isaac, à aller judicier. Et nous avons appris, peut-être pas exactement sous cette forme, mais raccordé, et nous avons appris qu'après lui, ces deux vocations vont se séparer, une avec Ésaü, que la vocation matérielle de son monde-ci, et l'autre avec Jacob, que la vocation spirituelle du monde à venir. Jacob n'est pas encore Israël. Le niveau Israël, c'est quand Jacob a les deux capacités, les deux cachets. Mais pour le moment, Ésaü a choisi que ce monde-ci, il a donc perdu le monde à venir, et puis Jacob a choisi le monde à venir, alors il n'a pas ce monde-ci, ça s'appelle l'exil. L'exil, c'est l'homme du monde à venir dans ce monde-ci, et pas chez lui. Je vais faire ma parenthèse. Mais l'objectif, ce n'est pas d'être Jacob seulement, c'est d'être Israël. Et ce monde-ci, le monde à venir. Ça vous éclaire d'ailleurs sur le problème qu'on va étudier tout à l'heure sur Malta. Pourquoi Jacob est appelé Israël tantôt, pourquoi Israël est de nouveau appelé Jacob tantôt. Et donc, Yitzhak prend acte que Jacob a choisi la vocation spirituelle, c'est très bien, il va le protéger des bénédictions de la vocation spirituelle. Et puis Ésaü a choisi la vocation matérielle, c'est très bien, il va le protéger des bénédictions de la... C'est son plan, des bénédictions de la vocation matérielle, parce que, nous dit le Midrash, Ésaü avait une capacité dialectique, logique, c'est des mots contemporains, mais la chose était là, tel qu'il arrivait à tromper son père, et son père était persuadé, enfin il semblerait, c'est un autre problème, son père était persuadé officiellement que Jacob était cachère, que Ésaü était cachère, parce qu'il lui posait des questions de halakha avec un pilpoulisé au 13e degré. Par exemple, il étudiait la cacheroute, et alors Ésaü, je suppose que à la Midrash, devait penser à son Talmud Torah, quand il y avait un petit juif insolent qui posait les questions au même mec. Et il demandait, et est-ce qu'on doit prendre la dîme du sel? Bon, tout le monde sait que le sel, on ne prend pas la dîme. Alors Ésaü demande cela à Isaac. Un des exemples qu'on doit acheter. C'est qu'il est pieux celui-là. Même le sel, il veut faire la dîme. Alors, il dit, et quand il lui a dit, par exemple, toujours dans le Midrash, vous voyez, une capacité d'argumentation, on appelle ça des arguties dans le sens négatif, la capacité juridique telle que ça se fait prendre pour du Talmud. Vous savez, quand le pilpoul se fait prendre pour le limoun, c'est la catastrophe. C'est cela le danger. C'est clair ce que je dis. Et alors, ça, c'est la capacité du droit romain. Et alors, je continue par un autre exemple. Il lui a demandé d'apporter un gibier. Alors, bien entendu, il pensait que le gibier serait cachère. Alors, Ésaü l'assurait qu'il avait aiguisé les flèches de façon telle que même de loin, il n'y aurait pas de problème dans la chrita. Alors, il avait une connaissance de la loi au niveau, encore une fois, formel, légal, juridique, absolu, mais aucune moralité. C'est ça qui trompait. Alors, le Midrash va lire le verset. Saïd Béfi, dans le pshat, c'est que le goût du gibier était dans la bouche de. Le goût du gibier, ça veut dire le goût de la vie de ce monde-ci. C'est le chasseur qui va au dehors chercher à manger la nourriture qui a le goût de la terre. Alors que que Jacob s'occupe de la Torah qui vient du ciel. Mais Isaac, c'est les deux. Et c'est les deux qui font réussir. Je referme cette parenthèse dans la parenthèse. Le Midrash explique comme ça. « Kitsaïd Befi » C'est-à-dire, il y avait, dans la bouche d'Ésaü, quand il parlait, il y avait une âme prisonnière comme un gibier, et qui était la Neshama de Rabbi Meir, qui, comme vous le savez, descend des Romains. Rabbi Meir, vous savez, c'est un converti qui descend d'une lignée de Edom. Et alors, ça veut dire... Or, Rabbi Meir, c'est la force de la dialectique dans la Mishnah. Stam Mishnah, c'est Rabbi Meir. Ça veut dire, la force de la dialectique juridique dans la Torah Shebealpé nous a été donnée par Rabbi Meir. C'est-à-dire, c'est cette capacité logique qui vient de Rome. Elle est rentrée chez nous avec Rabbi Meir. On parle de Rabbi Meir, pas de n'importe qui. Je ne sais plus si c'est rond. Bon, vous comprenez cela. Et alors, c'est parce que Ésaü avait dans sa bouche prisonnière, quand il parlait, la force de la Torah Shebealpé de Rabbi Meir, qu'Isaac était trompé. Voilà ce que dit Midrash. Bon, je pense qu'il est clair à décrypter. Okay. C'est cette capacité du juridique qui se fait prendre pour la moralité. C'est ça qui a trompé Isaac. Les barreaux. Et alors, je vous compléterai par un prolongement de ce Midrash dans un autre Midrash. Quand Jacob revient de son exil et qu'il doit rencontrer Ésaü pour le règlement de compte, alors le verset dit « Vaïra Yaakov Meod Vaïtserlo » que Jacob a eu très peur et il a été dans l'angoisse. Et Rachid dit, en citant un Midrash, il a eu très peur d'être tué, il a été dans l'angoisse de risquer d'avoir à tuer lui. Cette rencontre entre Jacob et Ésaü, c'est l'un ou l'autre. Je vous avais dit que c'est là la rivalité inexpliable, où le homme, il est homme et aimable. Ne peut pas être les deux à la fois, c'est l'un ou l'autre. C'est ou Rome ou Jérusalem, vous vous rappelez de l'analyse que vous avez dit. Et alors, ce Midrash que cite Rashi signifie, dans le prolongement du premier, la chose suivante. Vous savez que Rabbi Meir a eu un maître qui s'appelait Elishar ben Abouya, vous avez entendu Achet, okay. Qui est devenu apostat, et c'est pourquoi on l'a appelé l'autre. Acher. Alors, vous allez d'ailleurs me chercher, cherche-moi le Rashi sur ce verset de Vaïra Yaakov Meod Vaïtserlo. C'est dans Vaishlach, au début de Vaishlach. Vous allez voir la forme exacte du Midrash que cite Rashi. Alors, je continue pour Rabbi Meir. C'est un épisode du Talmud qui est très important, qui est très connu. Et Elishar ben Abouya était un des grands maîtres d'Israël. Et finalement, il a apostasié et il est devenu apicurien. Tout autant d'ailleurs de l'influence de la civilisation grecque et de l'envahissement de la mentalité de la philosophie dans les problèmes de la tradition. La Gemara nous raconte dans quelles circonstances il a perdu la foi, mais entre-temps, c'était Rabbi Meir qui était son élève principal. Et Rabbi Meir a continué à l'honorer malgré tout. Alors, très souvent, où est-ce que c'est ? Alors, très souvent, la Mishnah, comme chacun la Gemara, et rappelez-vous la formule Stam Mishnah Rabbi Meir. Vous voulez que j'écrive au tableau, c'est pas la peine. Stam Mishnah, quand il y a un enseignement de la Mishnah qui n'est pas cité au nom de Rabbi Intel, on dit c'est Rabbi Meir. Quand c'est une opinion particulière, on dit qui a dit quoi. Mais quand on ne dit pas, on sait que c'est Rabbi Meir. C'est clair ? C'est-à-dire, Rabbi Meir, c'est la force de la Torah Shebealpé. Et alors, il arrive très souvent que Rabbi Meir fasse citer l'opinion de Richard ben Abouya dans la Mishnah. Et donc, on le retrouve dans la Gemara. Et c'est toujours la formule « Acherim omrim », d'autres disent. Quand il y a d'autres disent, on dit « un tel a dit ceci, un tel a dit ceci », et d'autres disent ainsi, on sait que ça vient de Acher, l'autre, c'est-à-dire Elishar ben Abouya. Ça va pour ce que tu as fait. C'est avec beaucoup de pudeur que, bien qu'il a apostasié, au temps où il n'était pas apostat, il était cachère, sa Torah, c'était une Torah. C'est clair ? Alors voilà comment le Midrash aussi de Rashi, quand Jacob va rencontrer Ésaü, et qui sait qu'Ésaü se prépare à la saillie, alors il a peur, c'est la guerre, il a peur de quoi ? Ou d'être tué, va Ira, ou d'avoir à tuer Ésaü, va Yitzer. Et en général, les ennemis d'Israël ont une seule peur, c'est d'être tué, ils n'ont pas peur de tuer. Mais Jacob, lui, a les deux peurs. Alors voilà le Midrash que cite Rachid. Vaïra Shema Yeharek. Il a eu peur, de peur qu'il soit tué, lui. Vaïtserlo, im Yaharog hu et Aherim. Et il a été dans l'angoisse si lui tue d'autres, Aherim. Or, Aherim, c'est l'expression que la Mishnah emploie pour citer Elisha ben Abouya, le maître de Rabbi Meir. Ça veut dire, si Jacob tue Esaü, il va tuer Rabbi Meir. Alors il avait peur de tuer Rabbi Meir. C'est bien compris. Pourquoi ? Qui Tsaïd Befi, Tsaïd dit le Zohar, c'est Nishmato chez Rabbi Meir. Qu'est-ce que c'était ce gibier dans la bouche de Esaü ? C'est-à-dire, quand le Romain parle, il parle avec la logique dialectique de Rabbi Meir. C'est clair ? Voilà, la tête d'Esaü. Ça va jusque-là ? Ça veut dire qu'il y a aussi, dans la caverne de Marpella, avec les valeurs des événements fondateurs de la messianité d'Israël, Adam et Chava, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rebecca, et Yaakov et Léa, Rachel étant à Bethléchem, il y a aussi la tête d'Esaü. C'est déjà pas mal. Mais le reste, c'est impur. Voilà ce que c'est une gage de. Ça va jusque-là ? Quelle avait-il ? Une longue parenthèse. D'essence. Je veux dire, chaque manière d'être homme a une équation personnelle qui s'exprime dans ce que les Grecs appelaient sa psyché. Le mot psychisme, psychisme en français est trop faible par rapport à la psyché des Grecs. Ça veut dire son équation psychologique, mais c'est plus fort que psychologique. Sa manière d'être homme, sa personnalité, son équation personnelle. Et la grande différence qu'il y a entre la tradition d'Israël et les autres traditions humaines à propos de la même révélation qui a été à l'origine universelle, c'est que dans les autres traditions, il y a un écran d'impureté qui est précisément l'équation personnelle en question. Alors, en termes très simples contemporains, on dirait, je ne sais pas pourquoi, la sensibilité propre. Alors, à deux niveaux, chacune pour elle-même, toute sensibilité est cohérente et respectable, elle est ce qu'elle est. Mais confrontée aux critères de la sainteté, elle se dévoile comme impure. Je ne sais pas comment dire. Je vais essayer de prendre ça au niveau de la sensibilité. Mais un hébreu ne pourra pas ne pas percevoir comme impur, d'ailleurs un musulman aussi corollairement, la sensibilité gustative des chrétiens. On mange du sang, on avale des huîtres vivantes, on préfère le faisander. Alors, cette sensibilité, elle a son propre profil, mais par rapport aux critères de la sainteté hébraïque, c'est impur. Et on ne peut pas ne pas le percevoir comme ça, au niveau de la sensibilité, indépendamment des règles de l'absolu de la sainteté. Indépendamment, au niveau de la sensibilité. Au point que, d'ailleurs, la Gemara intervient, ne dites pas que vous n'aimez pas le faisandé parce que c'est faisandé, vous ne l'aimez pas parce que la Torah dit que. Il y a une autre raison, il y a la raison de la sainteté. Vous connaissez ça. Et il y a une manière de se comporter qui finalement s'exprime dans chaque culture au niveau de ce qu'on appelle la phénoménologie. Je ne sais pas si ce terme vous est suffisamment clair. Eh bien, c'est la phénoménologie romaine qui est impure, pas la logique. Et lorsque la logique s'exprime dans sa propre phénoménologie romaine, on a cette torsion de la conscience morale, la perte d'espérance que la loi morale soit praticable, et on se rabat sur la loi légale. Voilà ce que je voulais rappeler tout à l'heure, c'est que le christianisme a fait ce mixte-là. C'est-à-dire à greffer sur le légalisme romain dans le sens de la Rome païenne, l'espérance de la moralité déçue par rapport à la loi hébraïque. Déçue parce que on la rencontre, puisqu'on est romain, comme impraticable, parce qu'on y voit une loi légale. Vous avez compris le. Donc. Ken. Et répète la fin de la question, je n'ai pas entendu, mais parle plus fort. Bon, oui, en tout cas, c'est au moment de cette époque, c'est le fait culturel. Au moment de cette époque. Oui, mais il s'agit, je veux dire, à cette époque, et là, référez-vous au commentaire de Nachmani, beaucoup plus en détail. Je vais vous lire très, très rapidement. Vous rappelez que dans le contexte du début de Chaye Sara, Abraham sait a priori quel caveau il veut, pas n'importe lequel. Vous vous rappelez de cela. Et ce caveau, on nous le décrit, et ensuite le Midrash dira, c'est le caveau où il y avait déjà enterré Adam et Chava. Un peu dans les formules de la culture contemporaine très, très diluées, le berceau de l'humanité. Et alors, le texte nous dit très clairement, il y avait une certaine famille qui habitait ce pays-là, la famille d'un certain Ephron, ça je vais vous mettre au tableau, Ephron. Je vous rappelle que la racine du nom propre de ce Ephron, c'était le gardien du cimetière, c'est le nom de Rapha, et à la poussière tu retourneras. Il portait le nom de sa profession. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais. Non, à part provenance, c'est pas du livre. Mais... Le fossoyeur. Le fossoyeur avec un grand F. Bon. Que Ephron avait non seulement le caveau de sa famille, mais avait aussi le champ où on enterrait les étrangers. Ce n'était pas une fosse commune, mais dans ce moment de la civilisation à cette époque, chaque famille avait son caveau propre, et c'était son titre de possession de la terre. D'ailleurs, c'est entré dans la halakha que quiconque arrive en Eretz Israël a l'obligation d'acheter une parcelle de la terre, mais premièrement pour que ça soit sa tombe. Vous avez différentes propositions, il y en a même avec Mirpès et des téléphones. Et alors, là, pour revenir, dans une halakha, vous voyez que la prise de possession. Alors, Ephron, lui, avait un caveau particulier. Il y avait la Mehara et le Kever. Le Kever, c'est le caveau de sa famille, dans la Mehara où étaient enterrés les guérim, les étrangers. Alors, étant donné le statut d'identité d'Abraham en ce temps-là, c'est ce caveau-là qui réclame. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui va prendre le relais de ce qui était arrivé depuis Adam Arishon jusqu'à Ephron. De Adam Arishon jusqu'à Ephron, c'est dans le sens de la chute. Abraham vient prendre le relais dans le sens de la rédemption, dans le sens de la fin. Puisqu'il est guerre, il ne peut pas être enterré dans un caveau. Puisqu'il est toshav, il a droit au caveau. Il ne peut pas être enterré dans une marpelle. Alors que ça peut être enterré, l'identité hébraïque lorsqu'elle meurt, ça ne peut être enterré que dans ce caveau-là de Hébron. C'est-à-dire qui assume à la fois la lignée des engendrements depuis Adam, et aussi l'universel humain à travers les guerres. Je pense que ça peut être dit vraiment autrement, mais c'est suffisamment clair. Et par conséquent, c'est vraiment les droits d'acquisition d'Eretz Israël commencent par cette transaction, si j'ose dire. Abraham reprend en charge l'histoire de l'humanité telle qu'elle était dans la lignée de la chute depuis Adam jusqu'à Ephron. Et alors, une des expressions qu'a étudié surtout à partir du Midrash, mais surtout le Rav Chaim de Volodin, dont je crois le dernier chapitre du Nefesh HaChaim, et qui nous montre cette ascension à partir d'Abraham de ce qui était dégradé à partir de Adam. Je vous rappelle une équation sur laquelle le Rav Chaim de Volodin se base et que vous avez certainement entendu étudier d'autre part. C'est la différence entre O et A. Vous vous rappelez de cela, le Aleph qui descend à Aïn, c'est l'opacité à partir de la lumière, Or c'est la lumière et Or c'est la peau. Vous vous rappelez de cela, on a étudié cela. Et alors, la chute, c'est du Aleph au Aïn. Et voilà comment Abraham se définit dans une certaine circonstance. Il se définit Afar à Efer. Afar, c'est la poussière, Efer, c'est la cendre. Vous voyez, là, il y a le passage de Aïn. Alors, c'est dans la fin de l'origine, et tu dis cela, pour nous faire comprendre cela. La chute va de Adam à Ephron. Il est devenu poussière. Alors, la remontée, c'est à partir de cette poussière d'arriver à la lumière. Toutes les étapes avant d'arriver à la lumière, c'est l'ascension. C'est la différence entre Afar et Ephron. Effectivement, le nom plus précis, c'est Ephron ben Tsoar, ça veut dire poussière fille de lumière, alors que Abraham va dans l'autre sens, va de la poussière à la lumière. Ça va, ומספר קטן. אה, כן, יפה. טוב, אז je reviens donc au problème. Pourquoi je vous ai cité tout ça, en partant de quoi on est arrivé là? Je vais encore rentrer sur la tête des aïeux. Mais à cause de quoi? C'est vrai? Non, ça c'est ce qu'on vient de dire, mais d'où on est parti?
La dignité des
aïeux. Oui, bon, alors attendez, je vais reprendre le sujet. C'est-à-dire que Jacob exhorte ses enfants à le ramener à la caverne de Marpella. Et en partant de la caverne de Marpella, inévitablement, il est arrivé à Rome, mais aller-retour. Et alors, là, il y a d'abord ce premier chapitre. Ensuite, vous avez un deuxième paragraphe qui commence à Memchet, au chapitre 48, et qui va jusqu'à... Et tout le chapitre. Vous avez cette même scène qui se repasse, qui est racontée autrement, je veux dire plus exactement, comme il me reste peu de temps, alors j'ai tendance à raccourcir, mais ça fait rien. En une partie du sujet, normal étudié pour elle-même, c'est-à-dire cette exhortation de Joseph de ramener le cercueil de Jacob au pays de Canaan, donc dans la caverne de Marpella, que je mettrai en évidence un enseignement particulier là-dessus. Et finalement, c'est les quatre premiers versets, une première paracha, un premier paragraphe du récit de la Torah. Ensuite suit tout un chapitre, un autre paragraphe, si vous voulez, et où nous avons apparemment une autre scène, mais c'est la même au niveau de l'histoire. Et là où nous voyons Jacob bénissant les enfants de Joseph en les adoptant comme ses propres enfants. C'est-à-dire que bien qu'ils soient nés en Égypte, leur identité est celle du pays de Canaan. Vous voyez que, finalement, malgré les différences considérables des deux textes, c'est la même révélation qui nous est donnée à deux registres radicalement différents. Une, au niveau de la récapitulation générale de l'histoire d'Israël, à un niveau de transcendance absolue, et l'autre, au niveau de l'insertion de ce même thème de fin de l'exil et de retour au pays de Canaan, à travers l'histoire de ce Joseph qui était le véhicule du moment de l'exil dans l'existence de l'histoire. C'est-à-dire, lorsqu'on est suffisamment familier au texte, mais vous le verrez par vous-même, tout se passe comme si le même sujet est répété. Un, alors là j'en parle dans la Midrash, dans les mondes d'en haut ça se passe comme ça. Jacob convoque Joseph et le fait jurer de ramener son cercueil au niveau de l'histoire. L'autre, dans les mondes d'en bas, sur terre, dans l'histoire, ça se passe comme ça. Jacob adopte l'identité hébraïque de l'exil, les enfants de Joseph, et la ramène. Vous avez compris? Alors, la première paracha est appelée Stouma. Et voilà ce que je vais expliquer aujourd'hui sur ce point. Stouma en hébreu, ça veut dire, c'est le féminin de Satoum, qui signifie fermé, caché, scellé. Alors que l'autre paracha est une paracha ptoucha. Ptoucha en hébreu, ça veut dire ouverte. Vous remarquerez sur le texte du Chumash, et ceux qui sont familiers avec le Sefer Torah lui-même, je vous dirai comment vous le remarquerez, qu'il y a deux sortes de parachas. Au niveau du livre du Chumash, vous verrez que certains paragraphes commencent par une lettre qui est isolée, par la lettre P. Je vais vous donner un exemple ici. Tenez par exemple un peu plus loin. Ok, voilà, vous voyez, page 238, juste à la fin de notre paracha. Stouma, celle qui commence, il y a un P. Ça veut dire que ça indique que la paracha d'ici est ptoucha, qu'elle est ouverte. On n'a pas encore compris que ça veut dire une paracha fermée, une paracha ouverte, je vais expliquer. Mais je vous demande d'abord typographiquement, si je vous dis. Que dans d'autres, vous verrez par vous-même, il y a un summer. Je suppose que les Marianotins, vous avez appris ça en bibliographie. Déjà. Et alors, Dans le Sefer Torah, la différence est l'espace non écrit, l'espace blanc, entre le dernier mot de la paracha précédente et le premier mot de la paracha suivante, est plus grand dans une paracha dite Ptucha et moins grand dans une paracha dite Stuma. Bon, je vais directement à l'essentiel. Il y a un certain nombre d'intervalles de places de lettres possibles, mais il y en a beaucoup moins pour une paracha Stuma. Ça indique que c'est Stuma qui va suivre. Et les parachutes de la Torah en général se divisent en ces deux groupes. Les unes sont Stumot, les autres sont Ptuchot. Or, Vayechi, la paracha de Vayechi, commence immédiatement après, sans écart, sinon d'une lettre et demie peut-être, deux lettres, entre le dernier mot de la paracha précédente de Miket et le premier mot de Vaigash, hein, et le premier mot de la paracha de Vayechi. Si vous voyez un Sefer Torah ou un Tikkun Sofrim, les livres imprimés qui reproduisent le texte de la Torah pour ceux qui apprennent à lire dans la Torah sans voyelle, eh bien, vous voyez qu'après le mot Meod, qui est le dernier mot de la paracha de Vaigash, et avant le mot de Vaïchi, le premier mot de notre paracha, il y a un tout petit espace, à peine indiqué. Alors le Midrash dit que cette paracha est Stuma Mina Stumot, la plus fermée des fermées. Il donne des différentes raisons. Alors, je reviens à l'explication précédente. Ça veut dire, lorsque un enseignement nous est donné tel que ça se passe dans les mondes d'en haut, la paracha est stuma, fermée. On ne peut pas diagnostiquer en bas. Lorsqu'elle nous est donnée dans les mondes d'en bas, alors elle est ouverte. Vous garderez ce sens-là. C'est-à-dire, une paracha stuma est une paracha totalement occultée, alors qu'une paracha Ptucha est une paracha explicite. Ou d'une autre manière, lorsque ce dont on parle se passe dans les sphirot, si j'ose dire, à la racine de nos existences, alors c'est raconté en style de paracha stuma. Lorsque ça se passe dans l'histoire dévoilée en bas, c'est raconté dans une paracha Ptucha. Alors le Midrash donne plusieurs raisons pour nous indiquer que cette paracha est stuma. Je vous indiquerai une des dimensions, mais pas malheureusement beaucoup de temps déjà à l'heure. Donc, alors je vais aller à un des enseignements au moins. Je vais les prendre. Le verset 29. Le deuxième verset de la paracha. Vaïkrehu, Yémé Israël, Lamout. Et les jours d'Israël s'approchèrent de la mort. Littéralement s'approchèrent de mourir. On a appris une fois déjà cela. Ce n'est pas Israël qui va mourir. Yaakov Avinu Lomet. Mais, et d'ailleurs, je me proposais d'étudier ça dans les références, je vous avais même amené les livres, mais on n'a pas eu le temps, mais peut-être qu'on reprendra ça une autre fois. Les parenthèses, surtout quand elles sont introductives. Alors, c'est pas Israël qui s'approche de la mort, Israël est éternel dès qu'il devient Israël. Il y a un processus d'engendrement de cette identité qui est dans le temps, mais dès que cette idée est engendrée, elle a une dimension d'éternité qui dépasse le temps. Et ça se diagnostique dans l'histoire. Donc il ne s'agit pas que Israël va mourir. Mais les jours d'Israël s'approchèrent de la mort au moment où Jacob, qui est descendu en exil, va installer l'exil. C'est-à-dire Israël, dans l'exil, risque de disparaître. Non, je me suis mal exprimé. Vous corrigerez. Hein. C'est-à-dire que les jours où Israël est au niveau Israël s'arrêtent et recommencent les jours où Israël n'est plus qu'au niveau Jacob. Vous avez compris ? Dans l'exil, Israël est au niveau Jacob. Alors que en dehors de l'exil, Jacob devient Israël. Vous vous rappelez de cela ? C'est revenu de son exil que Jacob reçoit le nom d'Israël. Repartant en exil, Israël reprend le nom de. Donc les jours d'Israël s'approchent de la fin. Mais non pas Israël. Israël, eh bien, est clandestin dans le profil Jacob. Mais il ne disparaît pas. Un juif, c'est quand même un hébreu clandestin, mais qui est quand même là. Il y a le caractère indélébile de cette partie de l'être juif qui est hébraïque et qui est là, bien que caché sous des sédiments d'assimilation successives. C'est indélébile et irréversible. Mais ce n'est pas dévoilé. Ce n'est pas au jour, c'est dans la nuit. Bon, vous comprenez un peu le vocabulaire. Et alors, Vaïkrehu Yémé Israël Amut, Vaïkra, et il invoqua, il convoqua, pardon, il appela Livno, son fils, Yosef, Joseph. L'expression hébraïque, c'est Carole, appeler quelqu'un, c'est-à-dire avec la forme du datif. Alors le Midrash dit, parce que c'est Joseph qui a la possibilité de faire ce qu'il va demander. Il demande que on l'enterre pas en Égypte. Et il y avait de quoi le demander, parce que les Égyptiens l'ont reconnu comme un des grands dignitaires de l'histoire du monde, et ils voulaient l'embaumer, en faire une idole. Comme le répète le Midrash, c'est comme on pourrait vraisemblablement le comprendre directement. Et quand on sait ce que fait et ce que font les grandes civilisations, des traces d'Israël qu'ils ont traversées, ils en font des effigies idolâtrées. Vous comprenez ce que je veux dire, par allusion. Et alors, Jacob a une terreur absolue qu'on fasse de lui un Christ. Et alors, Joseph, d'ailleurs, va faire comme lui, il va demander à ses frères, surtout, faites comme Jacob a demandé, faites-le pour moi aussi. Ça n'a pas empêché les chrétiens d'adorer un fils de Joseph. Bon, ici, Rachid cite un Midrash qui dit, pourquoi le texte nous dit, et il appela son fils Joseph. Tout le monde sait que Joseph est son fils. Il aurait suffi de dire, Vaïkra le Yosef. Pourquoi Vaïkra l'Ibno le Yosef? Ça veut dire, en fait, l'hypothèse serait, d'abord, Vaïkra l'Ibno, et ça suffit. Et le fils auquel il aurait dû confier ça, dit le Midrash, c'est...